Alors voilà, c'est le genre de passage qui semble présenter peu d'intérêt pour nous chrétiens. Je me dis, c'est un peu comme le générique dans les films, vous savez, cette liste de noms qui se déroule au début ou à la fin. Ça peut sembler la partie la moins intéressante du film. Certainement, vous avez déjà quitté le cinéma, vous n'attendez pas à regarder toute la liste des noms. C'est la partie la moins intéressante du film, dans un sens. Mais dans un autre sens, c'est la partie la plus importante du film. Puisque sans ces vraies personnes, sans ces vrais acteurs, sans ces noms et ces prénoms, il n'y aurait pas de film. Et de la même manière, sans les vraies personnes, sans les vrais noms, sans l'ancrage dans l'histoire, sans l'attestation historique qu'apportent ces généalogies dans la Bible, eh bien la Bible devient un livre sacré comme un autre, avec des conseils à prendre ou à laisser, mais qui n'est pas forcément de la vérité historique. Donc ces généalogies, c'est vrai que ça paraît les moins intéressants, mais ils apportent une grande importance dans la Bible. En plus, les auteurs de la Bible aiment bien utiliser les généalogies pour faire passer des messages. C'est plus qu'une simple liste de noms. Ça peut le sembler avec des dates et des noms, mais les auteurs utilisent les généalogies. C'était très important dans la littérature de l'époque. Et les utilisent pour faire passer un message. Et quand on creuse un peu les généalogies, on trouve un peu d'art, un peu de finesse, un message qui veut passer. Et ici, dans cette généalogie, nous avons le premier cas de ce jeu, de cet exercice d'apprentissage qui s'appelle « Chercher l'intrus ». Vous connaissez ce jeu, « Chercher l'intrus ». On présente plusieurs objets, vous devez repérer le trait commun et puis l'objet qui est bien différent des autres. Eh bien, Genèse chapitre 5, c'est « Chercher l'intrus ». Et le but de ce passage, c'est de rappeler un trait commun à toute l'humanité, à nous tous, mais aussi faire apparaître l'espoir de la vie. Alors j'aimerais peut-être... Voilà, nous allons étudier Genèse chapitre 5, des origines de l'immortalité. Et nous allons voir trois points ce matin à partir de ce texte. D'abord, la règle, ensuite l'exception à la règle, et puisque nous sommes en France, l'exception à l'exception à la règle. Donc la règle qui ressort clairement dans ce chapitre, ce refrain qui est répété constamment et qui saute aux yeux, qui saute aux oreilles, j'espère que ça vous a fait l'effet, on donne le nom, on donne la date, et puis chaque fois, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Et on pourrait continuer comme ça, à travers toutes les générations de l'histoire, puis il mourut. C'est la règle universelle, tous meurent. Même ici, malgré de très longues vies, la mort finit par rattraper ces hommes. Alors, peut-être un mot sur l'âge de ces personnes. C'est vrai, ils vivaient avant le déluge et on trouve la longévité de vie très poussée. Beaucoup pensent que le monde d'avant le déluge déjà bénéficiait de conditions différentes qui étaient plus propices à la vie, et puis le corps humain, le génome humain aussi, était moins corrompu, de sorte que ces personnes pouvaient vivre bien plus longtemps. Mais, en cela, ça ne change pas qu'à notre époque, et la mort finit par les rattraper. Et ce chapitre donc confirme le verdict que Dieu avait donné à Adam: si tu manges le fruit, tu mourras certainement. Et c'est la mise en œuvre de ce verdict. Adam meurt et puis aussi toute sa descendance. Cela confirme que le chemin est fermé à l'arbre de vie. Cela confirme que la mort frappe l'humanité. Alors c'est vrai, c'est pas très gai comme message, ce chapitre 5 de Genèse. Alors il ne s'agit pas d'être morbide ce matin, mais c'est une grande leçon pour comprendre notre existence. Nous disons que nous étudions ce livre de Genèse pour comprendre nos origines et pour réussir nos destinées. Et c'est une chose qu'il faut comprendre pour réussir la vie ici-bas, pour réussir notre destinée. Il faut au moins un jour se poser cette question quant à la mort, l'inévitabilité même de la mort, l'universalité de la mort. Tous meurent, c'est la règle. Et je dirais que jusque-là, tout le monde est d'accord, chrétien, non-chrétien, on est tous d'accord que la mort nous attrape tous. Mais c'est là où les avis vont diverger. Alors, que faire? Qu'en penser? Comment réagir? Dans le schéma évolutionniste, la mort est un processus naturel, souhaitable même. L'évolution voudrait qu'on dise simplement « la mort, c'est la vie ». C'est la vie. La mort, c'est la vie. Et ça ne devrait pas nous tracasser, puisque c'est normal, c'est naturel, ce qui permet le progrès, ce qui permet la suite. Depuis toujours, ça a été comme ça. Alors la mort, c'est la vie. Mais il y a quelque chose en nous qui dit non, la mort, ce n'est pas la vie. La mort, c'est tout le contraire de la vie. L'homme n'arrive pas à s'y résigner. Nous n'aimons pas l'idée de la mortalité. Depuis la nuit des temps, il y a toutes sortes d'histoires et de légendes qui concernent la recherche de l'immortalité. Vous connaissez la fontaine de Jouvence que tant de personnes ont voulu chercher et n'ont pas trouvé. Alors aujourd'hui, on trouve ça un peu folklorique et c'est certainement toutes ces légendes tirent la source de l'arbre de vie, de cette réalité que Genèse présente. Mais effectivement, c'est ce désir de retrouver la source de vie, retrouver la fontaine de Jouvence. Tout le monde veut se rajeunir plutôt que de vieillir. Alors on trouve ces légendes folkloriques, cette recherche de fontaine de Jouvence. Nous savons tous que cela n'existe pas. Mais là, dernièrement, par exemple, Google a annoncé qu'ils allaient détruire la mort. C'était leur prochain projet de recherche. Et qu'ils investissent des millions à éradiquer la mort. Beau projet. Google va nous inventer l'arbre de vie. Donc, une démarche, c'est quand même vouloir... Et l'homme ne peut pas s'empêcher de lutter contre cette mortalité. Une autre démarche, c'est tout simplement ne pas y penser, essayer de se distraire. C'est aussi l'optique, la vision de beaucoup de nos sociétés occidentales. On n'y pense pas, on essaie de s'y distraire et on cache, on occulte la mort pour ne pas devoir y penser. Mais beaucoup sont d'accord que ce n'est pas une bonne manière de vivre, d'oublier ou d'occulter la réalité de la mort. Il m'arrive de citer ce livre de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, un philosophe, « Apprendre à vivre ». C'est le nom du livre et ça, la grande idée de ce livre, c'est il dit que toutes les philosophies veulent nous aider à vivre, veulent nous apprendre à vivre, mais toutes les philosophies, à la base, cherchent à répondre à cette problématique de la mortalité. Et lui, il va dire, si on n'a pas une bonne réponse à la mortalité, on n'est pas prêt à vivre. On ne peut pas apprendre à vivre et à réussir sa vie si on n'aborde pas cette question de la mortalité. Après, il montre comment les différentes philosophies essaient d'y répondre. Mais en tout cas, la plupart sont d'accord. Si on ne fait pas face un jour à la réalité, à cette règle qui est universelle, on n'est pas prêt à vivre. Bien sûr, ces questions de la mortalité, ce n'est pas que philosophique ou théorique. Il y a un aspect personnel qui va nous toucher tous, tôt ou tard. Je pense que je peux dire que j'ai vu de près la mort et ses dégâts, ses ravages, son non-sens, la douleur, la déchirure qu'elle nous impose en tant qu'être humain. Et d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, nous allons tous perdre nos parents, perdre nos enfants, perdre nos êtres chers, perdre nos vies. Ne jamais y penser, ne jamais s'y préparer, me semble ne pas très sensé. Et ce que ce chapitre, Genèse 5, déjà va nous faire réfléchir sur la réalité de la mortalité. Mais dans tout ça, il y a une exception à la règle, c'est ce que nous allons voir maintenant. Parmi tous ces gens qui meurent, il y en a un dont il est dit qu'il ne meurt pas. Alors ce refrain répété, puis il mourut, puis il mourut, puis il mourut. Et puis vous arrivez à verset 24. Enoch, on donne son âge, il fut 365 ans. Et puis verset 24, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Voilà, cherchez l'intrus, eh bien on l'a trouvé. C'est le verset 24. Et c'est différent. Il ne fut plus parce que Dieu le prit. Le refrain est rompu Et c'est l'exception dans notre texte, et c'est l'exception à travers l'histoire de la Bible. Il n'y en a pas beaucoup comme Enoch, Élie aussi, mais c'est vraiment l'exception. Et ça nous interpelle. D'ailleurs, ce qui est intéressant, si vous additionnez les années, j'ai fait un peu de calcul, si vous vous ennuyez en ce moment même, vous pouvez sortir vos calculatrices et calculer l'âge qu'Enoch avait quand Adam est mort, par exemple, puisque il vivait longtemps, donc il voyait les petits-fils et les arrière-petits-fils. Donc Adam a pu connaître Enoch, par exemple. Et quand Enoch est pris avec Dieu, jusqu'à là, il n'y a que Adam qui a connu une mort naturelle. Bien sûr, il y a Abel qui a été assassiné, mais sinon, Adam, il meurt. Et quelques années plus tard, si ces années se suivent chronologiquement en tout cas, Enoch donc, est enlevé avant même que le suivant, Seth, ne meure. Donc il y a une mort, Adam, et le cas suivant que le monde, que l'humanité constate, c'est quelqu'un qui part. Donc cette sentence de mortalité, cette sentence de mort, rapidement, il découvre une exception. Et puis, j'imagine, ça veut dire qu'il y a une lueur d'espoir. Ça veut dire qu'il y a une exception à la règle. Et puis, le texte dit, Dieu l'a pris. Et s'il a pris, où l'a-t-il pris? Cette question est posée. L'Ancien Testament est assez sobre dans la manière qu'elle parle de la vie après la mort. Mais on a les origines ici de l'immortalité, d'une vie après la mort. Si Dieu a pris Enoch, il a pris quelque part. Donc, même si les détails sont moindres, juste glisser dans cette généalogie, ça nous donne à l'humanité, déjà ici, une lueur d'espoir. Tout le monde meurt, sauf celui dont il est dit qu'il marcha avec Dieu. Alors, quelque part, c'est une manière de dire que la solution à l'immortalité, l'homme recherche tant, la solution est liée quand même à une marche avec Dieu. Puisque Enoch, c'était son trait, c'était sa qualité, il marcha avec Dieu, et parce qu'il marcha avec Dieu, il a été pris. Donc c'est une invitation à nous tous, finalement, de marcher avec Dieu. Quelque part, la solution se trouve là. Et c'est une belle phrase, marcher avec Dieu. Avec Enoch, nous avons la première description dans la Bible de la piété chrétienne. Marcher avec Dieu. Alors vous constatez l'absence des rites religieuses. Ce n'est pas ça qui a fait que Dieu a pris Enoch. Enoch ne devait pas faire tout ce protocole religieux qu'on trouve souvent dans toutes sortes de religions pour s'approcher de Dieu. Non, la phrase est simple, il marcha avec Dieu. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que marcher avec Dieu? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce texte et de ce mot marcher avec Dieu? Marcher ensemble, en général, quand deux personnes marchent ensemble, il me semble que souvent ils discutent ensemble, ils se parlent, ils s'écoutent. On pourrait marcher en silence, j'imagine, mais quand deux personnes marchent ensemble, ils se parlent, il y a un dialogue. D'ailleurs, courir ensemble, on commence à parler, mais après, on est trop fatigué pour parler ensemble. À la fin de la course hier, tout à la fin, on peut se parler gentiment ensemble. On est trop essoufflé. Mais marcher ensemble, c'est l'occasion. Et c'est beau de voir les couples qui marchent ensemble, des amis qui marchent ensemble, c'est l'occasion de discuter. Et je pense que ce que nous avons dans cette idée, marcher avec Dieu, c'est lui parler et c'est de l'écouter. C'est une conversation. Et c'est la base d'une amitié. Cette expression marcher avec Dieu pointe vers une amitié plus qu'autre chose. Et Enoch marche avec Dieu. Plus tard, il va être dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. Et c'est aussi une description de la vraie piété, de la vraie foi. Dans la traduction grecque de cette même phrase, « marcher avec Dieu » est rendu autrement. Et lorsqu'il est cité dans le Nouveau Testament, on cite la traduction grecque, et il est dit qu'Enoch était agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, c'est Dieu prenait plaisir à passer du temps avec Enoch. Enoch prenait plaisir à passer du temps avec Dieu. Enoch parlait à Dieu, Enoch écoutait Dieu. Il me semble que ça, c'est ça, marcher avec Dieu aujourd'hui. Nous avons l'occasion, nous aussi, d'écouter Dieu à travers sa parole. Nous avons l'occasion de parler à Dieu par la prière. Et c'est la base d'une piété chrétienne, d'une marche avec Dieu. et de penser que nous avons la réelle possibilité de plaire à Dieu, d'être agréable à Dieu. Il aime notre amitié, il veut notre amitié. C'est très fort. Donc, marcher ensemble, c'est une notion d'amitié, d'échange, d'écoute mutuelle. Et puis, je pense que dans la marche, il y a aussi une notion de régularité, de constance. On marche, c'est-à-dire on met un pied après l'autre. Enoch l'a fait pendant 300 ans. C'est beau, 300 ans d'une marche avec Dieu. En plus, nous savons, à partir des éléments de l'Épître aux Jude dans le Nouveau Testament, que cette époque était quand même une époque impie. Nous voyons que le monde va vers le déluge avec Noé, et donc il y a une rébellion croissante, il y a un rejet de Dieu. Donc le monde autour d'Enoch n'était pas facile. Lui-même, il a dû prophétiser le jugement, il a dû parler du jugement autour de lui, ce qui n'est jamais facile. C'est une manière sûre de perdre quand même quelques années, de rappeler le jugement de Dieu. Et c'est ce que Enoch a fait pendant sa vie. Donc, ce n'était pas facile pour Enoch de marcher avec Dieu. Ce n'est pas comme le monde était merveilleux et que tout le monde était chrétien. C'était tout le contraire. Donc forcément, dans cette marche avec Dieu, il y avait des obstacles, il y avait des pentes rudes, il y avait des difficultés. Et pourtant, il y a cette constance qu'on trouve chez Enoch qui marche pendant 300 ans avec Dieu. Donc, Enoch marche avec Dieu et c'est une lueur d'espoir pour nous parce que, voilà, lui, il ne meurt pas. Il nous montre ce que c'est d'avoir une relation personnelle avec Dieu et quelque part la solution à la mortalité va être liée à ça. Et pourtant, Enoch n'apporte pas la solution finale, il reste l'exception. Même après lui, les gens meurent. Même après lui, il y a toujours des fatigues et des peines que l'humanité vit. Et ce chapitre pointe vers l'espoir en nous montrant Enoch, qui ne meurt pas, mais aussi ce chapitre pointe vers l'espoir en allant vers Noé. Et là encore, c'est l'autre intrus du chapitre, verset 32. « Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japhet. » Et on s'arrête là, on ne dit pas encore qu'il mourut. Donc Noé aussi, c'est une exception. Et ce chapitre, le but de ce chapitre, c'est tracer cette ligne qui descend d'Adam en passant par Seth et qui va amener à une solution, à un repos, à une promesse qui représente Noé. Mais même Noé, nous savons, ce n'est pas la solution finale. C'est vrai qu'il construit une arche, comme nous allons voir dans les semaines prochaines, et ça permet un recommencement avec l'humanité. Mais même Noé n'est pas la solution finale. Il va falloir encore poursuivre cette descendance, cette postérité. Et ça, vous savez, c'est l'Ancien Testament est écrit aussi pour tracer, pour garder la trace de cette postérité, de cette descendance qui va aboutir à Jésus-Christ, qui est le vrai espoir pour l'humanité. Et le thème de la descendance, de la postérité, est lié à Genèse de manière très forte. Et Genèse, et avec les autres livres qui suivent, vont mettre l'accent sur une lignée, une descendance qui passe par ces gens fidèles, comme Seth, comme Enoch, comme Noé, comme Abraham après lui, comme David. Mais tout ça pour nous conduire à la vraie solution, la descendance, la postérité, qui est Jésus-Christ. Et lui, nous allons voir, il est l'exception à l'exception. Quand vous commencez à lire le Nouveau Testament, les deux des quatre évangiles commencent de la même manière avec des généalogies, Matthieu et Luc. Et dans ces généalogies, le but, c'est de montrer que Jésus est cette descendance promise, et toute cette descendance pointée vers un espoir qu'un jour, quelqu'un allait naître qui apporterait la solution à la mortalité. Et finalement, ce n'était pas Enoch, ce n'était pas Noé, il fallait attendre Jésus. Et donc ces généalogies retracent l'héritage de Jésus pour encore l'ancrer dans l'histoire et pour montrer que Jésus descend à travers cette lignée fidèle. Mais dans ces généalogies, on montre aussi que Jésus, il est différent. Il est né d'une vierge, il n'a pas de père terrestre, il est le fils de Dieu. et il a connu cette naissance miraculeuse par Marie. Donc, il n'hérite pas la nature pécheresse d'Adam. Il n'hérite pas la mortalité d'Adam. Et puis Jésus, il n'a jamais désobéi. Jésus, c'est mieux que Enoch. Jésus a toujours marché avec Dieu. C'est intéressant, il dit qu'Enoch, après la naissance de son fils, il marcha avec Dieu. Je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il n'a pas marché avec Dieu avant la naissance de son fils? Est-ce que la naissance de son fils a représenté un bouleversement dans sa vie ou une motivation dans sa vie à marcher avec Dieu? Parfois, la naissance d'un enfant ou l'arrivée des enfants, pour nous, jusque-là, la vie était facile, mais l'arrivée des enfants peuvent nous rapprocher de Dieu ou créer une crise dans le couple ou une raison de s'approcher de Dieu, peut-être ce qu'il a vécu. Mais il semble qu'il commence à marcher avec Dieu déjà après quelques années. Mais on ne peut pas dire ça de Jésus. Jésus a toujours marché avec Dieu. Quand Dieu voulait marcher, vivre cette communion, cette amitié avec Adam et Ève, par exemple, dans le jardin, eux, ils se sont cachés, ils avaient honte parce qu'ils savaient qu'ils avaient péché. C'est ce péché qui nous empêche d'avoir cette relation d'amitié avec Dieu. Mais Jésus, à aucun moment, Jésus n'avait besoin de se cacher de Dieu. Jésus était l'intime de Dieu, il marchait parfaitement avec Dieu. Et Jésus était totalement agréable à Dieu. Jésus mettait tout son plaisir en Dieu et Dieu mettait tout son plaisir dans son Fils. Jésus était mieux que Enoch. Jésus était la vie. D'ailleurs, j'ai enseigné l'évangile de Jean récemment à l'Institut biblique. Et j'étais frappé cette fois de voir ce thème de la vie dans l'évangile de Jean. On pourrait appeler l'évangile de Jean le livre de vie de l'agneau, si vous voulez. C'est la vie partout dans cet évangile. Jésus répète souvent, je suis la vie. J'ai le pouvoir de donner la vie. J'ai la vie en moi-même. Et quand quelqu'un croit en moi, cette vie jaillit de lui. Et puis, tous les miracles qu'il a fait, c'était pour ramener la vie, ramener la joie, pour réparer l'irréparable, pour défaire la mortalité ou la perte ou la séparation. Vous pensez à des guérisons et des résurrections. Même l'eau en vin, c'était pour ramener la joie, la vie à ce mariage qui tombait à l'eau. Jésus était la vie et tout ce qu'il a fait, il a dit « Je suis venu pour donner la vie en abondance. » Avec Jésus, c'était la vie. Alors, il aurait dû être l'exception à la règle. Si Enoch bénéficiait d'une exception parce qu'il marche avec Dieu, à combien plus forte raison? Jésus, c'est sûr, lui qui est la vie, lui qui est l'immortalité, lui qui marcha parfaitement avec Dieu, c'est sûr que lui... Il ne va pas passer par la mort, mais il va être l'exception à cette exception. Et il va connaître la mort. Pourtant, vous savez, Jésus est mort. Ce n'est pas un arbre de vie qu'il attendait à Jérusalem ou dans le jardin. C'était un arbre de mort. C'est cette croix, il est allé goûter la mort. Vous voyez, Jésus, ce qu'il a choisi par amour, il a choisi la mortalité pour nous donner l'immortalité. Et il y a ce beau verset que Paul dit à Timothée, c'est lui qui a détruit la mort et a fait briller la vie et l'immortalité par l'évangile. Jésus, lui, l'a vraiment fait, pas en investissant des millions dans la recherche, mais en donnant sa vie. Et c'est ça qui nous touche, et c'est ce qui nous attire à lui. Lui qui est l'immortalité, il a échangé avec nous. Vous voyez, c'est finalement ce que nous avons vu dans le baptême. Le baptême, c'est cette image que nous sommes unis à lui dans sa mort et dans sa vie, de sorte que nous pouvons avoir la vie éternelle, nous pouvons avoir l'immortalité et nous pouvons marcher avec lui. Et j'aime bien ce qu'a dit David vers la fin de son témoignage. Il a dit, même là, je ne suis pas un bon chrétien. Et nous devons tous dire, amen, moi aussi, je ne suis pas un bon chrétien. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et la marche que nous avons avec Dieu, est-ce que nous marchons fidèlement tous les jours avec Dieu? Est-ce que nous avons prié comme il fallait? Est-ce que nous avons écouté sa parole comme il a fallu? Et la bonne nouvelle, c'est qu'à ces moments, c'est Jésus, il est notre vie. C'est Jésus qui a marché avec Dieu pour nous. Et il nous porte lorsque nous avons du mal à marcher avec Dieu. C'est lui qui a marché parfaitement avec Dieu, mieux qu'Enoch. Enoch, c'était déjà beaucoup, 300 ans. Jésus a parfaitement marché avec Dieu et il est notre vie. Il marche avec Dieu pour nous lorsque nous nous sentons faibles. Et comme nous avons chanté, quel ami, un tel ami, ce Dieu-là, ce Jésus-là, nous voulons marcher dans ses voies comme Enoch a fait. Premier appel dans ce Genèse chapitre 5 à marcher avec Dieu. Toute la Bible va nous expliquer comment est cette marche. Mais de savoir que cette amitié avec Dieu, cette amitié avec Jésus ne prendra pas fin. Cette amitié est immortelle, cette amitié est éternelle parce qu'il nous donne la vie éternelle. Eh bien, c'est la meilleure amitié, c'est la meilleure solution. Alors, je prie que, comme David, vous aussi, vous pouvez vous engager à marcher avec Dieu, marcher avec Jésus. C'est une belle vie et c'est celle qui donne la vie éternelle et qui nous permet de tout espérer.